La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h.
Au programme du Club de la Tête au Carré ce vendredi, un one-man show scientifique où l'on apprend entre deux éclats de rire, des insectes aux capacités étonnantes et des génies aux personnalités hors du commun qui ont marqué l'histoire des sciences. Je vous présente les invités de ce club dans un instant. Bonjour Agnès Fèvre.
Bonjour Daniel.
À la une de la science, un virus qui écoute aux portes.
Oui, je sais ce que vous allez me dire, hein, Daniel. Ils n'ont pas d'oreilles, les virus, et vous avez raison. Sauf que des chercheurs viennent de mettre à jour comment un virus arrive à capter la communication entre des bactéries en vue de déclencher son attaque au meilleur moment. On en parle dans un instant avec la microbiologiste Marianne Depape.
Cette émission est réalisée par Clément Nouguier. Elle a été préparée par Sophie Vaux et Mathieu Aoued.
La tête au carré. Le club. Avec Daniel Fievé sur France Inter.
Invité du club de la tête au carré ce vendredi, le comédien et ornithologue Max Bird, l'entomologiste François Lasserre et le journaliste scientifique Yann Verdeau. Bonjour et bienvenue à tous les trois.
Bonjour. Bonjour.
Max Bird, vous présentez actuellement l'encyclospectacle à l'Européen à Paris, un one-man show avec des vrais morceaux de science dedans. Vous arrivez à faire rire avec des sujets scientifiques. Quels sont vos sujets de prédilection ?
Moi, c'est les dinosaures et les oiseaux. Finalement, c'est un peu la même chose, hein, parce qu'aujourd'hui, on sait que les oiseaux sont des dinosaures, théropodes. Donc ouais, c'est mes sujets de prédilection, mais tous les sujets qu'on peut trouver dans un C'est pas sorcier, ça m'intéresse et j'ai envie d'en faire un sketch.
La mythologie égyptienne, on va découvrir votre univers dans cette émission. Yann Verdeau à vos côtés. Alors vous êtes journaliste scientifique aux Échos. Vous venez de publier Le violon d'Einstein aux éditions Odile Jacob. Alors, c'est votre passion pour l'histoire des sciences physiques, des mathématiques, qui vous a conduit à écrire ce livre sur les grands noms de ces disciplines, comme Einstein, mais pas seulement Einstein, hein, il y en a bien d'autres. Vous parlez de leurs découvertes, mais pas seulement. Vous vous intéressez aussi à leur personnalité, au contexte dans lequel ils ont évolué. Les deux vous intéressent.
Oui, les deux m'intéressent parce que les deux sont tout à fait passionnants. Les théories en elles-mêmes sont source d'émerveillement. On peut s'émerveiller pour les oiseaux, les dinosaures ou les insectes. On peut aussi s'émerveiller pour les théories physiques. Mais effectivement, les personnages qui ont mené à bien ces travaux et fait ces découvertes sont tout à fait fascinants. Des gens comme Cantor, Gödel et Einstein, bien sûr, sont des personnages absolument hors du commun, tout à fait fascinants.
Hors du commun, certains d'entre eux étaient même à moitié fous. En tout cas, à la fin de leur vie, on va voir lesquels.
On verra lesquels.
On va voir
deux des trois.
Si ça faisait partie de leur génie. François Lasserre, entomologiste, vous publiez Les super pouvoirs des petites bêtes aux éditions Delachaux et Niesley. Et super pouvoir, le mot n'est pas trop fort. Hein. Quand on vous lit, certains de ces insectes sont vraiment capables de prouesses assez phénoménales. Vous avez un exemple comme ça pour nous mettre en appétit?
Les fourmis kamikazes, par exemple. Alors, on en parlera tout à l'heure ou dès maintenant?
Juste une seconde.
Des fourmis qui sont capables de se faire exploser et ça permet de sauver la colonie et de se suicider en même temps.
Déjà, c'est un bel exemple. Moi, j'avais le papillon qui est capable de faire l'Angleterre, Algérie en 3 jours.
Papillon, ça, c'est rien du tout. Avec quelques vents dominants, c'est réglé en 2 secondes pour le papillon Belle Dame.
Ouais, incroyable. Voilà pour les thèmes du jour et les auditeurs peuvent participer et réagir via la page de l'émission sur franceinter.fr ou sur la page Facebook de La Tête au Carré. À la une de la science, un virus qui espionne les bactéries.
Il est là, on pourrait croire qu'il dort, mais pas vraiment, il planque. Il écoute, voire il évalue la présence pour optimiser sa stratégie d'attaque et d'infection. Deux chercheurs de biologie moléculaire de l'université de Princeton aux États-Unis ont identifié cette capacité étonnante chez un virus baptisé VP882. Leur étude est parue dans la revue Cell. On en parle avec vous, Marianne Depape. Bonjour.
Bonjour.
Vous travaillez à l'INRA, au laboratoire de microbiologie de l'alimentation au service de la santé, Micalis. Vous êtes spécialiste des bactériophages, donc des virus qui infectent les bactéries. Qu'est-ce qui vous a paru intéressant dans ces travaux que vous avez accepté de décrypter pour nous?
Alors, c'est la première fois que des chercheurs mettent en évidence dans un génome de virus qui infecte des bactéries ce système de détection de communication entre bactéries et qui est normalement utilisé simplement entre les bactéries. Là, c'est la première fois qu'on pense que des virus peuvent détecter ce système pour l'utiliser à leur fin.
Alors on dit qu'ils écoutent, mais c'est faux. Donc ils sentent, comment ça se passe exactement ?
Alors chez les bactéries, il s'agit toujours de communication chimique. En fait, c'est la production d'un côté par certaines bactéries, l'export et l'import de ces petites molécules à l'intérieur des bactéries. On peut parler d'hormones bactériennes qui vont ensuite se fixer à des protéines régulatrices, donc qui vont changer l'expression génétique des bactéries suite à la fixation de ce système. Donc dans ce cas-là, en particulier, cette molécule diffusible bactérienne va être reconnue par le virus dormant et provoquer son réveil, sa multiplication et la lyse de sa bactérie hôte.
Qu'est-ce qu'elles se racontent, ces bactéries, entre elles ? Parce qu'avant d'être écoutées par le virus, en tout cas que l'on en capte quelques signaux, au départ, qu'est-ce qu'elles ont à se raconter entre elles, ces bactéries ?
Ce sont toujours des signaux qui vont déclencher des comportements collectifs. Donc ce qu'elles se racontent en premier lieu, c'est à quelle concentration, à quel nombre elles sont là. Ouais. Donc il y a beaucoup de comportements qui ont un sens pour une bactérie que si elles sont suffisamment nombreuses. Donc c'est très important pour elles. Il y a beaucoup de comportements différents qui ont pu être mis en évidence. La production de toxines pour les bactéries pathogènes. Donc là, on parle d'un virus qui infecte Vibrio cholerae, la bactérie responsable du choléra, mais pas seulement, ça peut être la production de biofilms, par exemple, ou la dispersion dans l'environnement, ou encore la luminescence, par exemple.
Elles se coordonnent, en fait.
Exactement, c'est un système de coordination.
Ouais, c'est très sophistiqué, hein, cette communication à toute petite échelle.
Tout à fait.
Et donc, c'est la première fois que les chercheurs voient que des virus peuvent détecter justement ce système de communication qui était propre aux bactéries. Et pourquoi c'est important pour le virus ? Pourquoi il cherche à attendre le bon moment, à attendre qu'il y ait autant de bactéries ? C'est une question de survie pour ce virus ?
Alors, on sait depuis longtemps que les virus détectent des signaux de bactéries pour optimiser leur stratégie de reproduction. S'ils entrent dans une bactérie qui, d'une part, est en phase de croissance pas optimale, il n'y a pas assez de nutriments pour optimiser sa reproduction, ils vont choisir de rentrer en dormance, donc en latence dans cette cellule pour attendre des comportements plus favorables à sa multiplication.
On a vraiment l'impression d'assister à un écosystème avec des prédateurs, des proies qui guettent dans l'ombre et qui attendent le bon moment pour faire l'attaque là où ce sera le mieux pour eux et pour leur propre survie.
Tout à fait. Et du coup, pour sortir de cet état de dormance, ils vont aussi écouter les bactéries. Ce qui est connu depuis très longtemps, c'est que s'il y a un stress cellulaire, ils vont détecter ce stress et reprendre leur activité de multiplication et de lyse de la bactérie. Donc ça, c'est quelque chose qui est bien connu, qui est vrai pour les virus de bactéries, mais aussi pour les virus qui nous infectent nous. On peut penser à l'herpès virus, par exemple, qui est responsable du bouton de fièvre. Donc il peut rester à l'état dormant pendant très longtemps dans les cellules. Et s'il y a un stress cellulaire, qui en général est associé à une baisse de l'immunité de l'hôte, donc à des meilleures capacités pour lui potentiellement de se reproduire, il va sortir de cet état de dormance et activer sa multiplication.
Alors là, mine de rien, on vient de switcher du virus de bactéries au virus qui nous concerne, parce que nos cellules peuvent être atteintes, attaquées par des virus, mais ce ne sont pas les mêmes.
Ce ne sont pas les mêmes, tout à fait.
Ils sont aussi capables d'écouter, c'est ce que vous nous dites en fait.
Ils sont aussi capables d'écouter la cellule. Ça, c'est connu depuis très longtemps. Donc ça, par contre, ce qui est nouveau dans cet article, c'est qu'ils écoutent un système de communication entre bactéries. Et plus récemment...
Mais ils ne participent pas à la conversation, hein, ils ne font qu'écouter.
Exactement. Les chercheurs ont très bien montré que ce système n'est pas réciproque. C'est-à-dire que le virus peut détecter les molécules de communication de la bactérie, mais le reste n'est pas vrai.
Et il y a une propriété spécifique, il est doté de récepteurs, de quelque chose qu'on lui a découvert, qu'il n'y avait pas chez d'autres virus ?
Oui, c'est le premier virus où en fait on détecte ce récepteur qui va fixer cette petite molécule chimique qu'on appelle de quorum sensing ou hormone bactérienne pour influencer son comportement.
Et alors, selon un des auteurs de la publication, cette découverte pourrait ouvrir la voie à des traitements contre la salmonelle ou le choléra. Alors, on est encore vraiment dans le conditionnel, hein, puisque c'est de la recherche fondamentale. Mais utiliser des virus pour tuer des cibles qu'on choisit, ça existe déjà, Marianne de Pape ?
Alors, ça existe depuis très longtemps, ce qu'on appelle la thérapie phagique ou phagothérapie. C'est l'idée d'utiliser donc des virus de bactéries ou bactériophages pour tuer certaines espèces bactériennes. L'avantage, c'est que c'est beaucoup plus spécifique que les antibiotiques parce que les virus ont en général une cible d'hôte assez étroite. Et bon, c'est en développement, il n'y a pas encore beaucoup d'études cliniques, mais ce que montre ce travail en particulier, c'est qu'on pourrait utiliser cette capacité de dormance des bactéries pour les tuer finalement en deux étapes, tel un cheval de Troie. D'abord, infecter les bactéries par des virus qui vont entrer en dormance dans toute la population, parce qu'ils ont une très bonne capacité de multiplication grâce à cet âge dont on reste un peu caché, mais quand même ils se multiplient, donc ils peuvent envahir la population. Et dans le deuxième temps, en utilisant la molécule qu'ont découvert les chercheurs, déclencher la reprise de multiplication et tuer ainsi les bactéries. Ce qui est nouveau dans ce travail, c'est qu'ils ont trouvé une molécule qui n'était pas toxique. Voilà, donc effectivement, ça ouvre différentes possibilités.
Merci Marianne De Pape de nous avoir éclairé sur ce petit monde des bactéries et de leurs virus. Et merci Agnès Fèvre, à très bientôt dans La Tête au Carré.
À bientôt Daniel.
En bref, dans le reste de l'actualité scientifique, le 1er janvier prochain à 5h33, la sonde de la NASA New Horizon, qui parcourt l'univers à plus de 50 000 km par heure, va survoler pour la première fois Ultima Thule, un objet céleste qui ne ferait qu'une vingtaine de kilomètres de diamètre. Il se situe à 6,4 milliards de kilomètres de nous, dans la ceinture de Kuiper, un grand disque cosmique datant de l'époque de la formation des planètes. Cette région glacée conserve les conditions originelles de la formation du système solaire il y a 4 milliards et demi d'années. À l'heure où les ressources en eau se raréfient sur la planète, des chercheurs de l'université de l'Ohio se sont inspirés une fois de plus du vivant pour collecter de l'eau à partir de l'air ambiant et du brouillard. C'est en effet ce que font dans le désert les cactus et les herbes qui recueillent les micro-gouttelettes d'eau condensées dans le brouillard sur leurs pointes, puis les guident vers leurs racines. Les coléoptères, eux, accumulent ces gouttelettes d'eau sur leur dos, puis les font glisser vers leur bouche. Les scientifiques ont donc construit différentes formes similaires à l'aide d'imprimantes 3D et recréer un environnement brumeux pour voir quel système fonctionnait le mieux. Résultat, les formes coniques, comme celles des cactus, sont celles qui recueillent le plus d'eau. Des chercheurs français et gabonais ont fait une découverte archéologique intrigante au sud du Gabon, dans la grotte de l'Irougou. Environ 30 squelettes humains, plus de 180 outils et armes en fer rouillé, des bijoux en fer, en cuivre et en laiton, des anneaux, des perles. La découverte faite en septembre vient d'être annoncée par l'Agence nationale des parcs nationaux du Gabon. Selon les chercheurs, ces objets auraient plusieurs centaines d'années, mais les datations précises sont maintenant nécessaires pour en savoir plus sur les populations qui vivaient dans cette grotte. À venir dans le club, un one-man show scientifique, des génies qui ont marqué l'histoire des sciences et les super-pouvoirs des insectes.
Oh,
C'était Supercherie M dans La Tête au Carré.
La Tête au Carré, le club sur France Inter.
Le club en compagnie du spécialiste des insectes François Lasserre, du journaliste scientifique Yann Verdot et de l'humoriste Max Bird qui présente actuellement à l'Européen à Paris et puis bientôt en tournée dans toute la France l'encyclospectacle. Alors c'est un vrai one man show, on rit beaucoup et on apprend aussi. Vos sketchs ont pour thème la biologie moléculaire, l'évolution, la mythologie ou encore l'ornithologie. On n'est pas habitué à avoir ces thèmes abordés par des humoristes. Vous étiez sûr de votre coup en imaginant l'encyclospectacle.
Ben en fait, j'ai commencé en faisant des sketchs plus classiques. Je me suis dit, je vais essayer d'être comédien. Qu'est-ce que les gens ont envie d'entendre? Ouais. Je me suis dit, on va faire un sketch sur le métro, on va faire un sketch avec de l'humour noir, on va parler des trucs du quotidien. En fait, tous les humoristes essayent de trouver ce truc qui va toucher tout le monde. Ouais. Et j'avais aussi quelques sketchs un peu plus personnels où je parlais d'Égypte ou de dinosaures, mais qui était moins efficace, on va dire. Et en fait, en faisant des festivals d'humour, des concours, où là, on est en compétition avec d'autres humoristes, j'étais ridicule avec mes sketchs sur l'observation du quotidien. Ils étaient tous meilleurs que moi, mais avec mon sketch sur le métro, ça marchait pas. Par contre, quand je jouais mes sketchs plus personnels, là, le jury me félicitait en disant, ça, c'est intéressant. Et en fait, j'ai eu le sésame quand ils m'ont dit, il faut que tout le spectacle soit comme ça. Et je me suis dit, c'est génial, parce que moi, j'ai beaucoup plus de facilité à écrire sur ces thèmes scientifiques ou historiques.
Donc, j'étais pas sûr
de mon coup. Ouais. Il a fallu un petit peu de temps pour comprendre que c'était ça que je voulais faire. Mais quand j'ai commencé à faire ça, là, le spectacle a commencé à marcher.
Et il y a de l'ambiance, sur ces thèmes que l'on pourrait croire un peu sérieux, un aperçu.
Allez-y, criez franchement un bon coup, vous allez voir, ça va vous faire du bien, parce qu'en fait, c'est scientifiquement prouvé. Vous savez, quand on se force à sourire, à rire ou à crier, notre cerveau sécrète de la dopamine, ce qui nous procure réellement une sensation de joie. Voilà. C'est pour ça qu'on vous fait crier au début des One Man Show tout le temps. Alors, on cherche des prétextes, on vous demande comment ça va, mais on s'en fout. Nous, la seule chose qu'on cherche, c'est que vous preniez votre shoot de dopamine et vous êtes un petit peu plus euphorique, vous riez plus facilement. C'est pas tellement malhonnête parce qu'on finalement, on passe tous une bien meilleure soirée, quoi. Donc je vais le refaire encore une fois. Lâchez-vous, hurlez, criez, soyez votre propre seringue de dopamine. Vous allez voir, tout le monde va se sentir encore mieux après. Ah voilà. Ça va ?
Et voilà comment on embrase une salle sur fond d'explications endocrinologiques.
Ouais.
Sur tous les sujets, ça passe, ça fonctionne.
En fait, moi, je pense qu'à la base, ma passion, c'est de... J'ai envie de parler, en fait, de ces sujets, parce que moi, je lis beaucoup de trucs là-dessus, et j'ai envie d'en parler aux gens pour leur transmettre l'émerveillement que moi, j'ai eu en le lisant. Seulement, de prime abord, les gens, ça les intéresse pas forcément. Donc, rajouter de l'humour, rajouter des blagues, des mimiques corporelles, je pense que ça a toujours été inconscient chez moi. C'était pour interpeller, pour intéresser un peu plus. Donc maintenant, oui, c'est plus facile aujourd'hui d'écrire un sketch sur un sujet. Je vais tellement avoir envie qu'il devienne clair et qu'il devienne captivant que les blagues vont venir toutes seules.
Oui, c'est ça. Vous vous êtes entraîné toute votre vie avec vos amis à les intéresser à vos propres passions. Alors, vous racontez ce qui se passe dans notre tête. C'est cette saison, c'est la période de fête. On a tendance peut-être parfois à arroser un peu plus que de raison les plats. Vous le dites dans votre spectacle, ce qui se passe dans la tête, dans le cerveau, au moment où on picole et même dans le corps, est scientifiquement très intéressant.
Mais oui, carrément. Les gens savent qu'il ne faut pas boire d'alcool, mais le mécanisme qui fait qu'on devient ivre et qu'on devient malade, est assez méconnue finalement. Donc j'aime bien l'expliquer en expliquant aux gens, voilà, il y a une molécule qui vous rend ivre, et en essayant de dissocier cette molécule qui vous rend un peu pompette, eh ben ça fait du poison, et cet excès de poison vous fait vomir ou vous rend malade. Et une fois qu'on a terminé de le dissocier, ça va mieux. Donc quand on boit trop vite, on n'a pas le temps de bien dissocier, ça fait du poison. Et les Asiatiques par exemple n'ont pas l'enzyme qui permet la dernière étape, ce qui fait que même avec une, enfin pas tous les Asiatiques mais une grande partie, ce qui leur permet pas de dissocier l'alcool, même quand ils en boivent peu, ils sont malades.
C'est-à-dire même s'ils boivent peu, eux, ils ont tout de suite, ils sont intoxiqués par l'alcool qu'ils ont bu. Alors sur scène, vous avez aussi une gestuelle très vive. Hein, ça rappelle un peu les personnages de dessins animés. Oui. Vous êtes un vrai comédien avant tout sur scène. Quelles sont vos références? Qu'est-ce qui vous inspire?
Moi, en général, quand on me demande mes références, je dis Jamy.
Ouais, mais Jamy, il
parce
était...
que c'est pas un humoriste, mais en fait, mes références en humour. Je voulais pas devenir humoriste moi quand j'étais plus jeune. Ça, je voulais devenir biologiste, et il y a eu un virage où je me suis dit ok, maintenant je vais essayer de faire complètement autre chose. Je raconte ça un peu dans le spectacle, hein, j'essaie de résumer, mais on va dire quoi. Mais sinon oui, il y a des humoristes. Je pense que la première fois que j'ai vu L'autre c'est moi de Gad Elmaleh ou le premier spectacle d'Anthony Cavana, j'étais vraiment complètement conquis. Je me suis dit c'est incroyable de pouvoir faire un monologue en fait d'une heure et demie, et il y a rien à jeter, c'est incroyable. Je pense que inconsciemment ça a été une grosse influence.
Vous faites terriblement bien le dinosaure avec ses subtilités.
Mieux que l'humain, oui. Je remarque.
Je me suis pas perdu. Mais effectivement, entre le T-Rex et puis le plus petit,
le Vélociraptor,
vous mimez les deux, et on voit très bien la différence. Alors vous l'avez dit, hein, vous le dites aussi dans le spectacle, vous vouliez être à la base biologiste. Qu'est-ce qui s'est passé?
En fait, ça a
mal tourné.
C'était clair pour tout le monde que j'allais devenir biologiste. J'étais passionné, j'avais des bonnes notes en SVT, je voulais faire ça, et je voulais devenir biologiste en Amazonie. C'était une idée fixe. Je voulais aller en Amazonie. C'est-à-dire que j'étais même un peu raciste envers les autres animaux. Moi, à partir du moment où c'est en Amazonie, je l'aime. Quand il y est pas, je m'en fous. Et en fait, j'ai pu aller faire mon lycée en Guyane française. Donc, à 15 ans, je suis arrivé en Amazonie. Et là, j'ai arrêté d'avoir des bonnes notes parce que j'allais plus en cours. J'étais dans la forêt avec mon appareil photo en essayant de prendre en photo les oiseaux que je chérissais, que je connaissais par cœur. Et en fait, je me suis rapproché de biologistes, d'ornithologues sur place, et j'ai fait plein de sorties. J'ai accédé à des endroits très difficiles d'accès. Et en fait, pendant 4 ans, à la base, je devais rester que 2 ans, mais je suis resté 4 ans. J'ai vécu le rêve j'ai été partout, j'ai pris plein de photos, j'ai ajouté 3 oiseaux à la liste des oiseaux guyanais, donc des oiseaux qu'on n'avait pas encore photographiés ou observés sur le territoire. Donc ça a été vraiment un gros rêve. Et après, c'est vrai que revenir en France, faire 10 ans d'études pour peut-être devenir biologiste, peut-être un jour aller en Amazonie, mais avec des problèmes d'adultes et tout ça, plus avoir cette espèce de liberté que j'avais étant jeune, je me suis dit que c'était une très mauvaise idée. J'allais déprimer, j'allais comparer avec mes années de jeunesse quand je faisais ce que je veux, quand je pouvais me lever tous les matins et qu'il n'y avait pas de problème. Et donc je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose de complètement différent, il faut que je trouve un rêve de secours.
Voilà, donc en fait comédien, c'est le rêve de secours.
C'est le rêve de secours, voilà.
Mais
c'est ça.
Vous avez quand même commencé un peu les études de bio, vous avez été un petit peu...
Oui, j'ai quand même tenté, parce qu'au début, ça n'a pas été un virage automatique. Je suis rentré de Guyane quand même avec le plan, mais en fait j'avais atteint le Graal, parce qu'il y avait un oiseau que je voulais voir par-dessus tout, et je m'étais donné ma vie pour le trouver. Et une fois que je l'ai trouvé, je me suis rendu compte que le feu n'était plus là, que j'avais du mal à me dire oui, j'en ai toujours envie. En fait, j'avais atteint le dernier niveau du jeu vidéo que j'avais dans ma tête. Mmh. Donc je peux y rejouer encore avec plaisir, mais c'est quand même pas les mêmes sensations. Ouais. Je me suis dit, il faut que je trouve un autre jeu vidéo, quoi.
Ouais.
Et la scène, ça me paraissait aussi absurde et démesuré que de trouver un aigle géant en Amazonie.
Ouais. Alors vous avez commencé par le cours Florent.
Voilà, c'est ça. Comme tout le monde, comme tous les gens qui veulent être comédiens, qui savent pas du tout par où commencer, je connais personne, je viens pas de Paris, je connais personne dans le milieu. Je m'achète un réseau.
Et vous saviez à ce moment-là que ce serait du one man show, votre mode d'expression?
Moi, je voulais faire des vidéos à la base. Je m'étais dit, c'est ça le plus simple. Et je me suis heurté très vite à la difficulté, du montage, du son, de l'image. En fait, je me rends compte que même quand on veut faire un truc cheap, il faut quand même connaître un petit peu. Et donc, tout ce que j'avais écrit pour faire des vidéos, je me suis dit, on va les faire sur des scènes ouvertes, dans des sketchs, en fait. Parce que là, sur scène, on a juste besoin de ses bras et d'une voix, et on peut, sans montage, amener tout le monde là où on veut. Donc, j'ai commencé, du coup, par le one-man show, par défaut. Ouais. Et après, j'ai fait des vidéos.
C'est ça, parce qu'on vous connaît aussi comme youtubeur. Hein.
Voilà,
vous avez votre chaîne YouTube qui marche très bien, plus de 540 000 abonnés, des vidéos qui sont vues plusieurs millions de fois. Mais en fait, c'est venu après, parce que le spectacle n'a pas tout de suite démarré.
Non, il a fallu du temps déjà pour que je comprenne ce que je voulais faire sur scène. Et puis en fait, je suis revenu à mes premières amours finalement, en parlant de biologie, en parlant des animaux. Ouais. Et c'est vrai que ça a été, une fois que le spectacle m'a plu, je me suis dit, ok, on va revenir à l'ambition de base, faire un programme de vulgarisation scientifique sur Internet.
Ouais. Alors là, effectivement, c'est vraiment de la vulgarisation, toujours avec ce côté un peu cartoon que vous avez. Hein, c'est très rythmé, là encore. Ouais. Faites beaucoup d'expressions, de mimiques, c'est très réjouissant à voir. Vous adorez tordre le cou à des idées reçues. On se dit, finalement, c'est pas chercheur que vous auriez dû être, c'est prof. En fait, vous adorez captiver votre auditoire et lui apprendre.
Je me sens beaucoup plus un professeur qu'un scientifique dans le sens chercheur, carrément. Parce que les scientifiques, ils ont besoin, les experts, d'être exacts. Donc c'est très difficile de vulgariser quand on a une formation d'expert. Alors que moi, c'est l'inverse. Il faut que je prenne quelque chose qui est compliqué, que je le simplifie, que je le raccourcisse. Donc moi c'est ça que je préfère faire. Oui.
Alors vous profitez aussi maintenant de cette notoriété, de cet auditoire que vous avez pour aussi, même si au départ votre chaîne n'est pas une chaîne de militants, maintenant vous commencez à défendre, à avoir quelques combats, notamment sur l'Amazonie et les menaces qui pèsent dessus.
Complètement.
Et puis plus récemment aussi cette pétition.
Voilà, l'affaire du siècle.
L'affaire du siècle. Là aussi vous avez.
Fais partie d'un cercle de youtubeurs qui il y en a beaucoup qui sont déjà très engagés. Il y a des chaînes qui sont pour le coup très 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 engagé. Moi à la base, c'est vrai que c'est pas le message, mais c'est justement quand on n'est pas engagé à la base que quand on donne un point de vue là-dessus, ça résonne, parce que sinon on ne prêche que des convaincus. Si on a une chaîne qui est entièrement militante, c'est difficile après de convaincre des gens, parce que les gens qui nous écoutent sont déjà d'accord. Donc j'ai été approché moi par tous les gens qui ont fait la campagne On est prêt, il est encore temps, et là aujourd'hui l'affaire du siècle. Donc ils approchent un maximum de youtubeurs et en essayant d'avoir des relais. Et donc plus le youtubeur est gros, plus le relais est important. Donc moi j'ai évidemment accepté toutes ces propositions-là parce que ça me semble important de faire sa part aujourd'hui.
Alors Max Burs, vous allez rester avec nous parce que dans la suite de cette émission, on va aborder d'autres sujets qui peut-être alimenteront les futurs numéros de l'Encyclo Spectacle. Alors je rappelle qu'on peut vous voir actuellement à Paris à l'Européen et puis en tournée dans toute la France. Je peux pas donner toutes les dates, mais en janvier, passé le 10 janvier, Brest le 11 janvier, Dijon le 23 janvier, Bourg-les-Valence le 25, Lille le 31. Puis on va mettre les liens évidemment sur la page de l'émission pour ceux qui voudraient voir quand est-ce que vous passez près de chez eux. On passe à un excellent moment et on apprend énormément de choses.
Merci beaucoup.
C'est très rythmé, c'est très bien fait. Vous restez avec nous, dans un instant on s'intéresse à Einstein et à quelques autres génies qui ont marqué l'histoire des sciences. C'était Shelter, Broken Bells sur France Inter.
La tête au carré, Daniel Fievé.
Le club des têtes au carré avec trois passionnés de science qui aiment en parler, chacun à leur façon. François Lasserre, entomologiste, Max Bird, humoriste, et Yann Verdeau, journaliste scientifique aux Échos, passionné par les théories de la physique et des mathématiques et par l'histoire des sciences. Vous venez de publier aux éditions Odile Jacob, Le violon d'Einstein. Vous aviez envie de nous faire côtoyer de près ces grands noms de l'histoire de la physique et des mathématiques. On rentre un peu dans leur intimité.
Oui, c'est ça. J'ai essayé de montrer aux lecteurs que derrière ces théories, il y avait des hommes et que c'était des hommes en chair et en os, enfin, et avec un vécu et avec des histoires parfois tragiques, comme celle de Cantor, des histoires tout à fait fascinantes, mystérieuses, comme celle de Gödel, et puis bon, Einstein qui est à lui seul une légende vivante.
Ouais, ouais. À chaque fois, leur personnalité, ce qu'on leur associe, par exemple pour Einstein, c'est d'ailleurs le titre du livre, hein, Le violon d'Einstein, vous dites le violon a été Einstein, ce que les mathématiques et la physique sont pour moi, c'est-à-dire ce sont vos passions, vous êtes un amateur éclairé, averti.
Voilà, le violon dingue d'Einstein, c'est le violon, mon violon dingue à moi, c'est les mathématiques, ouais, et la physique. Effectivement, mais je trouve ça amusant de noter que le violon, enfin le violon a joué une place très grande dans la vie d'Einstein, aussi grande que dans celle de son presque contemporain Sherlock Holmes. Ouais. Et c'est amusant de constater que les deux attributs de ce demi-dieu de l'enquête policière qui est Sherlock Holmes, c'est-à-dire le violon et la fameuse pipe, sont aussi les deux attributs du demi-dieu Einstein, qui est une sorte d'enquêteur policier des mystères du cosmos.
Ouais. Qu'est-ce qu'on sait du violon, justement? Quel rapport il entretenait avec ce violon? Ça l'inspirait? Ça le détendait? Est-ce que ça a joué dans sa créativité un rôle?
Oui, une fois, un jour, il y a un psychiatre allemand qui faisait une enquête sur une étude sur les liens entre créativité scientifique et créativité artistique, et donc il a interrogé une série de personnalités, dont Einstein, et qui lui a demandé si la pratique du violon avait eu une influence sur son travail de physicien.
Et ça lui a fait comprendre des trucs, peut-être.
Peut-être que ça lui a fait comprendre des choses. Einstein a répondu. Il a dit non, pas d'influence directe. Par contre, les deux participent en fait de la même aspiration et se complètent l'un l'autre. Mmh. Et moi, je pense que, pour ça que j'ai appelé ça le violon d'Einstein, c'est-à-dire que avec son violon comme avec ses équations, avec son archer comme avec le bout de craie dont il servait pour écrire au tableau ses formules un peu cabalistiques, Einstein, qui était quand même fondamentalement un esthète, tendait vers le même but, c'est-à-dire il recherchait l'harmonie. Et cette harmonie, pour lui, elle existait aussi bien dans une sonate de Mozart, qui était son compositeur préféré, que dans les lois de la nature, telles que les révèlent les équations fondamentales de la physique.
Alors vous avez des interprétations audacieuses, peut-être encore plus que celle-là, hein, sur le côté à la recherche de l'harmonie. Vous dites que la pipe d'Einstein, le nuage de fumée qui l'entourait, a certainement joué un rôle dans sa perception du monde.
Oui, aussi, effectivement, je pense que la pipe a été pour Einstein et puis quelques autres de son époque une sorte de support de ses méditations, comme l'ordinateur le deviendra après pour les générations suivantes. Oui, je pense que c'était une manière de mettre de la chair, quoi, autour de ces théories qui sont quand même très très abstraites et très un peu complexes.
Théorie abstraite avec au cœur, bien sûr, des réflexions d'Einstein, une question.
Qu'est-ce que le temps? Ne vous fiez pas aux apparences. Cette question simple constitue la clé pour comprendre la relativité. Elle est aussi à l'origine de mes nombreux cheveux blancs. Quand nous décrivons un déplacement, nous le faisons en fonction du temps. 10 mètres par seconde, 160 km/h. Mais une simple description mathématique de la vitesse est totalement stérile si nous ne pouvons pas définir le temps. Le temps est-il universel? En d'autres termes, y aurait-il un tic-tac audible à travers notre galaxie? Une horloge maîtresse, pour ainsi dire, qui battrait la mesure comme le métronome de Mozart? La réponse, mes amis, est non. Le temps n'est pas absolu. Du reste, pour nous, physiciens dans l'âme, la distinction entre le passé, le présent et le futur n'est pas moins qu'une persistante illusion.
Extrait de la série Genius, qui est un biopic sur la vie d'Einstein. Si vous deviez, en quelques mots, dire ce qu'Einstein... C'est un peu un défi difficile que je vous demande, Yann Verdeau. En quelques mots, dire ce qu'Einstein a apporté. Qu'est-ce qu'il a donné de plus que l'on ne savait pas et qui a changé le regard des hommes sur le monde ?
Bon, incontestablement, donc c'est avec la théorie de la relativité, il a complètement bouleversé nos connaissances sur le temps, effectivement. Et bon, le temps, c'est le grand mystère. Hein. Saint Augustin disait, si tu ne me demandes pas ce qu'est le temps, je le sais, et si tu me le demandes, je le sais plus. Et ce mystère, il l'a éclairé d'une toute autre lumière. Intuitivement, on vit tous dans le temps de Newton. C'est-à-dire ce temps unique, le même pour tous, qui s'écoule imperturbablement. C'est notre expérience immédiate et concrète du temps, c'est celle-ci. Mais Einstein, dès 1905, dit que ce temps de Newton n'existe pas. C'est une chimère, il n'a aucune espèce d'existence de réalité. Pourquoi ? Parce que, en fait, chaque objet matériel, vous, moi, l'auditeur, le nuage dans le ciel, chaque objet matériel a son temps qui lui est propre. Et ces différents temps propres ne sont pas synchronisés les uns avec les autres. Et donc ça, c'est une découverte majeure qu'il fait dès 1905 avec la théorie de la relativité restreinte. C'est une découverte de physique, mais c'est pas seulement une découverte de physique. Enfin, c'est ça qui m'intéresse, en fait. C'est que c'est ce qu'on a pu appeler, par la suite, une découverte philosophique négative. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui empêche les philosophes qui s'intéressent à la question du temps, Bergson par exemple s'intéressait au même moment à la question du temps, c'est quelque chose qui empêche les philosophes de dire tout et n'importe quoi sur le temps. Ils doivent tenir compte de ce que dit la théorie de la relativité, ça les contraint en quelque sorte. Or, quand on dit ce qu'ils disent, c'est-à-dire la simultanéité, et non pas absolue mais relative, c'est-à-dire deux événements qui sont simultanés pour l'un, peuvent être successifs pour un autre, ça a une portée philosophique très grande, parce que ça veut dire que le présent, l'instant présent, n'a pas n'a rien qui le distingue des autres instants, des autres points de la ligne du temps. Il n'a pas de statut spécial. Et en particulier, il est faux de croire que seul le présent existe et que le passé n'existe plus et que le futur n'existe pas encore. Or, c'est pourtant ce que nous tous, nous croyons. Et ça, nous dit Einstein, c'est une erreur, c'est une illusion.
Max Bird, je vous le vois écouter avec énormément d'attention. Est-ce que des sujets comme ça, comme la relativité générale,
ouais, ça pourrait, être un bon,
ça
un
pourrait bon avoir thème. Sa place en sketch ? C'est possible d'aborder des thèmes de cette complexité sur scène ?
Oh bah oui, dans Interstellar, Christopher Nolan a passionné un peu tout le monde avec le fait que justement le temps n'était pas le même partout. Donc je pense oui que les gens, ça pourrait vachement les intéresser. Mais moi, la question que je me pose, c'est du coup, est-ce qu'on peut quand même parler d'un temps uni et même pour tous à petite échelle? Quand on dit l'auditeur, le nuage, le machin, est-ce que vraiment la relativité si...
Est-ce que les écarts sont...
Les écarts sont significatifs.
Ouais, alors j'ai parlé de désynchronisation. Ouais. Effectivement, pourquoi plus de 100 ans après Einstein, finalement, ce message-là, en dehors des cercles des physiciens, il passe encore relativement peu. C'est parce que, ouais. C'est tout simplement parce que ces écarts sont tout à fait minimes. Et pour une raison bien simple, c'est-à-dire qu'ils sont minimes parce que nous nous déplaçons à des vitesses qui sont relativement à la vitesse de la lumière, qui sont tout à fait négligeables. Ouais. Mais si on se déplaçait à des vitesses qui correspondent à une fraction significative de la vitesse de la lumière, ces écarts deviendraient tout à fait manifestes et nos agendas seraient sans doute beaucoup plus compliqués à gérer.
Alors Yann Verdeau, votre livre n'est pas uniquement consacré à Einstein, hein, c'est vraiment toute une galaxie sur plusieurs décennies de chercheurs et de personnes qui ont révolutionné la pensée que vous abordez. Alors il y en a deux autres, Kurt Gödel et Georg Cantor, qui alors tous les deux sont plutôt des mathématiciens. Ce serait un petit peu compliqué en quelques secondes d'expliquer en quoi ils ont révolutionné leur domaine. Mais ce qui est fascinant, c'est à quel point ils avaient une puissance logique incontestable et en même temps une folie, en tout cas une bizarrerie. ils étaient à moitié fous. Alors je ne sais pas si c'est leur découverte qui les a rendus fous, ou si c'est parce qu'ils étaient un peu décalés et bizarres et perchés qu'ils ont fait ces découvertes.
Oui, ben ça c'est la grande question. Hein. Est-ce qu'ils sont devenus fous à force de s'être enfoncés comme ça dans les méandres de la logique mathématique, ou est-ce qu'il n'y avait que deux fous pour pouvoir aller aussi logiquement loin? Est-ce que la logique mathématique elle-même est une logique un peu folle? C'est une grande question à laquelle, je dis tout de suite, je n'ai pas la réponse.
Alors, j'en ai une autre aussi de question. Est-ce que si ces personnes, ces personnalités n'avaient pas existé, est-ce que peu ou prou, à peu près à la même époque, on aurait fait ces découvertes? Est-ce que c'est un processus collectif? De toute façon, à un moment, la connaissance est à un état tel qu'on finit par découvrir? Ou est-ce que sans eux, on n'y serait pas encore?
Très difficile de répondre parce que... Bon, évidemment, ces découvertes, toutes les découvertes correspondent à un certain air du temps et sont les questions qui sont derrière ces découvertes sont dans l'air du temps. Après, il faut pas non plus tenir pour quantité négligeable le génie, la personnalité des scientifiques en question, de ces savants qui ont fait ces découvertes. Bon, sans doute qu'elles auraient été faites par d'autres à d'autres moments, mais bon, il se trouve que ce sont eux qui les ont faites, et il se trouve qu'ils avaient effectivement des personnalités tout à fait hors du commun et vraiment intéressantes.
Pour approfondir ces sujets et en savoir plus, Yann Verdot, votre livre s'intitule « Le violon d'Einstein » aux éditions Odile Jacob. Et après le génie des grands scientifiques, nous allons nous intéresser au super pouvoir des petites bêtes dans la dernière partie du club.
Des confitures, des billets, des îles au trésor. Et l'on allait cueillir les murs en bas dans la ruelle des morts. On nous disait que Barberousse avait ici sa garnison, et que dans ce coin de Cambrousse, il avait vaincu des dragons. On avait l'âge de nos fêlures et l'on était conquistadors. On déterrait casque et fémur en bas dans la ruelle des morts. Dans la ruelle des morts. On arrosait toutes nos victoires à grands coups de verre de kéfir, ivre de joie et sans savoir, on reprenait Mersel Kébir. Puis c'était nos chars en dinky contre les tigres d'Orifort qui libéraient la French County en bas dans la ruelle des morts. Que ne demeurent les printemps à l'heure des sorties de l'école, quand les filles nous jouent leurs 16 ans pour une bouille de Royal Menthol. Je ne sais plus si c'était Françoise, Martine, Claudine ou Marie-Laure qui nous égouttaient leurs framboises en bas dans la ruelle des morts. Dans la ruelle des morts. Dans la ruelle des morts.
Hubert Félix Tiefen, La ruelle des morts. La programmation musicale est signée Thierry Dupin.
La tête au carré, le club.
Les insectes sont nos amis, il faut les aimer aussi. Mais connaissez-vous les noms de mes nouveaux compagnons? Laissez-moi vous présenter mes pépettes préférées.
Autour de la table du club, il y a Yann Verdeau, journaliste aux Échos, Max Bird, humoriste en tournée avec l'Encyclospectacle, et François Lasserre, entomologiste, vice-président de l'Office pour les insectes et leur environnement, l'OPI. C'est pour vous, hein, cette petite chanson des inconnus. Vous publiez Les super pouvoirs des petites bêtes aux éditions Delachaux et Niestlé, avec les dessins de Gilles Macagnot, un livre pour les enfants et puis pour les grands aussi. Et vous aviez envie de nous réconcilier, de nous dire que les insectes sont nos amis. François Lasserre.
Mais tout à fait, moi j'ai pas besoin de cette chanson, c'était plutôt le public a besoin d'entendre ça de plus en plus, parce qu'en effet les insectes sont nos amis, moi je le sais depuis longtemps et on le sait pas assez. Et en fait c'est entre autres dû à des biais qu'on a, parce que notre cerveau est très bien fait dans l'ensemble, et puis il a plein de biais, on appelle ça des biais cognitifs, et il retient souvent une anecdote. Et en fait, par exemple, si je vous parle des guêpes, vous allez vous dire, bah tiens, ça c'est des insectes qui piquent, les guêpes, ça c'est vraiment des insectes qui piquent. Et en fait, si vous réfléchissez bien à combien de fois vous êtes fait piquer par une guêpe dans votre vie, bon, en général ça se compte sur les doigts d'une main quand même, à part des exceptions, et en fait, on va dire qu'il y a 5 guêpes qui vous ont piqué, 3, et en fait, il y a eu une Jocelyne, Émilie, Natacha, Laetitia et Astrid. Et à partir de ces 5 individus, vous êtes fait une idée, votre cerveau s'est fait une idée sur les guêpes. Et en fait, votre cerveau a oublié de compter toutes les... Alors, je donne des noms, des prénoms de filles, je rappelle qu'il n'y a que les filles qui nous piquent chez les guêpes. Et en fait, notre cerveau a oublié de comptabiliser toutes les guêpes qu'il a croisées tout au long de sa vie. Et en fait, il devrait dire, au moment où on se fait piquer, bon, une sur 2 millions depuis quelques années, c'est vraiment pas grand-chose. Et en fait, les insectes et plein d'autres choses, plein d'autres sujets souffrent de ça, du fait qu'on les met tous dans le même panier.
On parle des casseurs et on parle pas des autres. On oublie toutes les guêpes qui cassent rien, qui nous ont rien fait.
Voilà, l'analyse géopolitique de Max Bird.
Bah, en même temps, elles ont des gilets jaunes aussi, les guêpes. Alors après, on s'y perd.
Vous voyez, on le fait avec les humains. Alors avec les non-humains, c'est encore plus facile. Et c'est vrai que les insectes souffrent beaucoup de ça.
Ouais. Alors d'ailleurs, ils sont très nombreux et très variés. Le monde des insectes est très diversifié. On connaît combien d'espèces d'insectes à la surface du globe?
Bah, en fait, on a mis un nom scientifique sur environ 1 million d'espèces. Ça veut pas dire qu'on les connaît du tout, ça veut juste dire qu'on a identifié une nouvelle espèce, mais on connaît pas, on est loin de connaître toutes leurs mœurs. Et on soupçonne entre 2, 3, 4, 5, 6, 8 millions, 10 millions, 20 millions. En fait, on sait pas, et comme on découvre très peu on est très peu à pouvoir identifier des bêtes chaque année, on pense qu'il faudra 1000 ans pour identifier tous les animaux et tous les êtres vivants qui vivent sur Terre, donc on saura peut-être jamais combien il y a de sortes.
En 1000 ans, il y en aura des nouveaux. Oui. Il y en a qui sont partis. Parce que,
voire nous, on sera plus là, on n'aura pas fini de compter qu'on aura nous-mêmes disparu.
C'est exactement. Alors, les entomologistes à ce jour sont assez fiers de ça. C'est que c'est vrai que sur l'ensemble du vivant, on a mis un nom sur 2 millions d'espèces, et sur ces 2 millions d'espèces d'êtres vivants, il y a plus d'un million d'espèces qui sont des insectes. Et donc, 3 animaux sur 4 à ce jour sont des insectes. Mais en fait, on est très loin du compte. Mais c'est vrai qu'en diversité d'espèces, c'est incroyable.
Ouais. Ce qui veut quand même dire que la norme sur Terre, c'est d'avoir 6 pattes. Hein. Si la majeure partie des espèces et des animaux sont des insectes.
À ce jour, des extraterrestres scannent la Terre, c'est une Terre d'insectes.
Ouais, nous sommes sur la planète des insectes, ne l'oublions pas. Alors, sur la planète des insectes, bon nombre d'entre eux ont de super pouvoirs. On va en regarder quelques-uns. Ils peuvent vivre dans des conditions extrêmes, par exemple, par des températures plus que glaciales. Moins 196 degrés, ça fait pas peur à certains insectes.
Alors, ils sont pas très nombreux, mais c'est vrai qu'on l'a dopé avec des protéines qui sont anti-freeze, qui empêchent de geler. On l'a un peu dopée, cette petite mouche, on l'a mise dans l'azote liquide et elle a survécu. Sinon, d'autres insectes, moins 40, ne leur fait pas peur du tout. Ils ont des espèces d'antifreeze, de protéines qui empêchent le froid de dilater leurs cellules et de les tuer. C'est assez fréquent. D'ailleurs, en ce moment, tous les insectes sont autour de nous, même s'ils gèlent énormément. Alors, la plupart vont quand même s'abriter du gel sous la terre ou sous les écorces, etc. Mais de nombreux insectes sont capables d'être gelés, comme des larves de libellules, des enfants de libellules qui sont sous l'eau, peuvent se faire prendre dans la glace quelques temps, et puis ensuite ça fond, et puis continuer leur vie après.
Il y a des grenouilles aussi qui arrivent à faire ça, le truc qui est autour des cellules pour éviter qu'elles se dilatent.
Exactement. Oui, il y a plein d'autres animaux. C'est vrai que moi, je fais la pub des insectes. Oui, c'est vrai qu'il y en a d'autres qui sont capables de geler, mais il y a beaucoup plus d'insectes.
Oui, c'est vrai que c'est quand même eux eux qui ont gagné.
Mais alors, il y a quand même des insectes, des guêpes, qui ont inventé le papier bien avant les Chinois. Ça, il n'y a pas beaucoup d'animaux qui peuvent en dire autant.
Alors, bien avant, les insectes, les premiers, c'est plus de 450 millions d'années. Les hyménoptères, c'est-à-dire les abeilles, les guêpes, les fourmis, c'est un peu plus récent. Mais c'est vrai que les guêpes, en tout cas les guêpes sociales, vont rogner du bois avec leurs mandibules. Elles vont mâcher de la cellulose ou quelque chose de ligneux. Elles vont le mélanger avec leur salive. Et cette espèce de pâte, c'est exactement de la pâte à papier, de la cellulose avec du papier, avec de l'eau en quelque sorte, c'est du papier. Et elles vont le mélanger jusqu'à ce que ça devienne assez mou. Et chaque guêpe va retourner au nid et étaler cette petite feuille de papier. Et en fait, quand on regarde un nid de guêpe, vous savez, cette grosse boule grise qu'on trouve souvent dans les greniers ou parfois dans le sol, eh bien, si on la regarde de près, on voit que chaque ouvrière a étalé sa petite feuille de papier et petit à petit, ça forme une boule. Et en fait, ça fait bien longtemps que les guêpes ont inventé du papier. Mais en fait, une grande partie de notre culture s'est faite en miroir avec les autres animaux, qu'ils soient les autres animaux non humains, et dont les insectes.
Max Bird, vous avez des souvenirs lors de vos périples dans la forêt amazonienne d'insectes qui vous ont fasciné, intrigué?
Les piqueurs de guêpes, j'en ai sur plus que les doigts de la main, mais j'ai cherché un peu.
Oui.
Parfois, il y a des oiseaux qu'on trouve que en présence de certains hyménoptères, notamment des oiseaux qui ne suivent que certaines espèces de fourmis, les fourmis légionnaires. Donc, si on veut la photo de l'oiseau, il faut se mettre dans les fourmis. Et ça pique fort.
D'accord.
Oui. Ah oui, j'en ai vu un paquet.
Sur les fourmis qui piquent fort. C'est vrai que les fourmis, c'est fascinant. Vous dites que si on prend le poids de toute l'humanité, c'est le même poids que toutes les fourmis. Elles
Exactement.
Sont évidemment beaucoup plus nombreuses pour arriver.
Voilà, le poids des hommes équivaut à peu près au poids des fourmis uniquement. Et c'est pas un groupe très nombreux dans les insectes, mais elles sont, en revanche, en quantité d'individus, elles sont très nombreuses.
Et elles ont fait des choses incroyables, hein, agricultrices, les fourmis.
Et elles sont agricultrices. Alors quand même, rappelons qu'on dit agricultrices. Parfois, on entend qu'elles élèvent les pucerons. C'est pas tout à fait vrai parce qu'il faut les nourrir alors que les pucerons se débrouillent pour être nourris. Enfin, ils aspirent à la sève des... Elles profitent de leur crotte. En fait, elles les élèvent. En fait, elles les protègent parce qu'elles raffolent de leur crotte. Et la crotte de puceron est délicieuse. Je vous invite à la goûter. C'est du miel, là. C'est une goutte de sucre. Donc, vous prenez aucun risque. Elles adorent ça. Il y a même des abeilles qui font du miel, qu'on appelle du miel de sapin avec de la crotte de puceron. Donc, les abeilles vous font manger après de la crotte de puceron vomie par elles-mêmes entre ouvrières. Vous voyez que
on paye pour ça et on se régale avec ça.
C'est absolument délicieux. Et il y a quand même des fourmis qui ont poussé le concept de l'élevage jusqu'à enfermer des pucerons dans des étables de terre. Ah oui. Donc là, on peut quand même parler d'élevage. Et pour l'agriculture et les fourmis, quand même, il y a des fourmis, il y a pas mal d'espèces qui élèvent un champignon à l'intérieur de leur fourmilière. Et c'est un champignon qui va servir à nourrir les individus de la
c'est les attas.
Voilà, entre autres. Ouais. Et alors, certaines ouvrières vont chercher des morceaux de feuilles qui vont servir à nourrir le champignon. Elles rapportent des gros morceaux de feuilles. À l'intérieur, il y a d'autres ouvrières qui découpent ces gros morceaux de feuilles en petites lamelles. Elles les donnent au champignon. Quand le champignon est pas en grande forme, elles découpent avec leur mandibule les parties abîmées. Elles fabriquent un antibiotique qui peut les soigner. Et puis, elles font des crottes et pipi en même temps, qui servent d'engrais aux champignons. Donc, elles font de l'agriculture. Alors, vraiment, à 100% et depuis bien longtemps.
Ouais. On le voit souvent. D'ailleurs, en Amazonie, les fourmis qui découpent des feuilles. Et comme elles sont sombres et que la feuille est vert pétant, on a l'impression que c'est des petits bouts de feuilles qui
exactement,
volent.
Exactement, c'est presque de la magie, on voit des morceaux de feuilles voler.
Et
on
à la peut queue le ça.
Exactement,
qui sont sur des centaines de mètres.
Allez, 20 secondes sur les fourmis kamikazes quand même, dont vous nous avez parlé.
Oui, elles ont des espèces de grosses glandes qu'elles peuvent remplir avec des toxiques et une glu. Et en fait, quand elles sont un peu énervées, bon, elles mordent. Et si vraiment elles sont très énervées parce qu'il y a des envahisseurs, ben là, elles sont capables d'exploser. Oh, donc, ça vaporise du toxique autour d'elles. Et une espèce de glu. Alors, elle en meurt, évidemment, mais ça permet de sauver la reine qui est au milieu de la colonie. Parce que quand on est social et qu'on est ouvrière, c'est pas très grave. Ça n'a aucune importance de se suicider ou de mourir. C'est pour ça que les guêpes peuvent vous attaquer. Parce que c'est la femelle qui est au cœur de la fourmilière qui pond, elle.
Merci, François Lasserre. Je rappelle le titre de votre livre, Les super pouvoirs des petites bêtes aux éditions de Lachaud et Niesley. Merci à tous les trois.
Merci.